Il est tout juste 14h05 et on va encore parler climat avec vous, ah bah Denis peu, oui. Chessou, voilà, la COP21.
Il est beau, il est frais, mon texte, il vient de sortir, là, voilà. Donc on va essayer de décoder tout ça avec, avec Arnaud Gosmont, ici présent, avocat environnementaliste, avec Frédéric Danhué aussi, que vous connaissez, et aussi, on va faire un petit tour, je vais vous raconter tout ça, on va faire un petit tour du côté des glaciers, on va voir.
Je ramasse les copies tout à l'heure.
Ouais, on va essayer, merci Dominique.
Ce qu'il nous faut aujourd'hui et ce qu'on attend de cette COP21, c'est un accord contraignant, un accord juste et équitable pour l'ensemble des pays permettant aujourd'hui de financer le développement d'abord de l'Afrique.
CO2, mon amour.
Nous, on n'est pas tout à fait responsable des dérèglements climatiques parce qu'on ne produit presque pas des gaz à effet de serre. C'est au niveau des pays industrialisés où cette production est assez importante. Mais
Denis Chessou.
Malheureusement, il nous faut réagir parce que nous, on commence à avoir les effets.
Les personnes que vous avez entendues sont donc d'origine sénégalaise et donc on les retrouvera au cours de cette émission. Bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement. CO2 mon amour avec aujourd'hui Alain Gadan et David Federman à la technique. J'oublie pas Christian Buton et puis assisté de Claire Destacan. Et bien c'est Xavier Pestugia qui réalise l'émission. Ah, ils ont gagné un joli voyage de 2 semaines au Bourget. On va ranger les négociateurs rincés dans leurs boîtes en carton, puis les remettre dans les avions. Sans indiquer dans le texte le poids carbone des avions, faut pas exagérer non plus. Du texte, on a glissé les successives versions dans les poubelles jaunes à papier et à carton. Et moi qui vous ai sur le dos depuis, 200 000 ans, vous me donnez depuis un bon siècle envie de me gratter comme si j'avais des puces. À force de me bétonner la couenne, d'asphyxier mes marais, de mercuriser mes rivières, de me faire mal à l'âme, vous me faites aussi tousser. Car vous m'avez fabriqué un chapeau. Oui, qui aujourd'hui, à tout le monde, tient chaud. Beaucoup trop chaud. Voiture, bateau, ciment, data center, clim, électricité, logement. Vache, cochon, soja, couvée et bauge mondiale chimique incorporée. Ah, c'est quand même marrant que vous ne compreniez pas que vous n'avez qu'une seule terre, comme vous n'avez d'ailleurs qu'une seule mère. Vous la salopez, votre mère? Bah non, merci pour elle. Bah, pourquoi vous le faites, vous, avec moi, qui vous abrite? Bon, alors ça y est, cop, vous m'avez sauvé. Je dois vous remercier, alors que depuis 60 ans, comme des cinglés, vous vous goinfrez sur mon dos. Bah oui, faut que ça aille vite, faut consommer, taillot. Allez à la bagarre, faut remplacer, acheter du rien, de l'inutile. Le mimétisme, y a rien de tel, merci René Girard. Ou bien on continue à aller comme avant, dans le Grand 8, à faire les capitaux circuler. Eh oui, il y a toujours à voir avec les capitaux, en rabotant au passage les forêts, les hommes, les sociétés. Alors faut quoi? Faut vous piquer? Faut vous prendre un bon gros mur dans la tronche pour vous calmer? Ah moi, vous savez, j'ai des sauts de cyclones, d'inondations, de sécheresses, de canicules dans les poches. Mais faut dire que vous m'y avez poussé en déréglant le thermostat. Donc vous avez signé pour combien? On va voir ça, 2 degrés, 2 degrés, mais d'accord. Mais avec la fièvre que vous m'avez collée, ça va peut-être être un peu compliqué. Moi je suis pas loin, on est parti quand même sur 3 degrés. Ouais. Et bien sûr, vous comptez déterrer le charbon, le pétrole, le gaz inoffensif qui sont sous vos pieds. Eh ben alors, vous verrez que même sur une terre morte et cramée, ils voudront toujours vendre et acheter. Mais je suis des millions de fois plus solide que vous, même en mode dégradé. Alors vous voulez une bonne nouvelle? J'en ai une. Bon, la COP est terminée, mais dans un mois. Alors là, soyez patients, le manège merveilleux du Dakar va enfin recommencer. Voilà, donc ça va tournicoter, ça va tournebouler dans votre magazine de nature et d'environnement, cop, mais aussi après, donc un décryptage avec une ronde d'intervenants, et donc principalement Frédéric Danhué et Arnaud Gosmont, donc avec nous. On y essaiera de rejoindre tout à l'heure, mais vraiment en direct, Luc Jacquet dans l'Antarctique. J'espère que ça va marcher, on espère de l'attraper, parce qu'il veut nous faire un petit point quand même 10 ans après la marche de l'Empereur. sur cette Antarctique du côté de la Terre à Delhi. Alors, le texte vient de sortir, tout chaud. C'est pour ça qu'on est arrivé très, très, très à la bourre, comme on dit. Donc, Arnaud Grossement et donc Frédéric Denry avec nous. Alors, peut-être on va commencer avec vous, Arnaud, aussi, d'abord sur la température. Bon, qu'est-ce que l'on peut dire? Alors, on rappelle qu'il faut que ce soit donc vers 15h45, on aura des annonces et il faudra que ce soit adopté. Mais en l'état actuel des choses, qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui, Arnaud Grossement?
D'abord, la première, c'est que si on doit résumer, on va dire que c'est un texte qui scientifiquement est insuffisant. Ça ne serait pas suffisant pour atteindre le niveau qu'on souhaitait atteindre. Juridiquement, non contraignant. Les quelques instruments qui permettaient de le rendre contraignant n'y paraissent pas. Avec un grand trou dans la raquette, a priori, sur l'objectif de mobiliser 100 milliards pour la finance climatique, on le trouve dans le projet de décision, pas dans le projet d'accord.
Ça, on le rappelle, c'est 100 milliards tous les ans à partir de 2020.
Exactement, parce qu'il faut commencer maintenant, sans attendre 2020. Cet accord de Paris ne rentrera en vigueur qu'en 2020 et encore si au minimum 55 États l'ont ratifié d'ici là. Aujourd'hui, on va ouvrir un processus de ratification qu'on espère le plus rapide possible, mais pas d'accord qui produira des effets avant 2020. Alors, scientifiquement insuffisant, juridiquement non contraignant, mais malgré tout, politiquement historique. Parce que ce texte-là, tout à l'heure, on peut espérer que la planète entière le signe. Mmh. Et donc, ça permet d'ouvrir une phase. Ça permet pas de freiner. C'est-à-dire que tout est encore possible derrière. Donc, je crois qu'il faut l'analyser de manière plus politique que scientifique ou juridique, en fin de compte, aujourd'hui.
Frédéric Denry.
Je vais pas dire le contraire d'Arnaud. Il a déjà tout dit. Non, c'est... Non, effectivement, il y a des choses qui vont pas dans ce que l'on vient de lire. Il y a rien sur les transports, il y a rien sur le marché du carbone, ce qui est très étonnant. Il y a des choses qui ont sauté par rapport à l'avant-dernière version. Il y a par exemple ce financement donc de 100 milliards qui n'existe plus. Ça paraît très surprenant, mais par contre, sur les attendus, si j'ose dire, c'est très important. Il y a au moins la mention du degré 5. On fait référence aux droits de l'homme, on fait référence à une différenciation entre les pays riches et les pays pauvres quant à l'effort à fournir. Oui, c'est important. Puis le fait que 196 pays aient été là, le fait que il y a quelque chose qui s'est passé. Mmh. Est-ce que ça va produire des effets? C'est un peu comme le Grenelle. Je pense qu'il y a un effet symbolique très fort. Et c'est surtout là-dessus. Il fallait rien en attendre d'extrêmement contraignant au départ. Moi, je fais le parallèle avec le Grenelle. Le Grenelle, sa force, ça a été le côté très symbolique. Il y a beaucoup de choses qui ont changé à partir du Grenelle. Nonobstant des décrets qui sont pas là, peu importe. Il y a vraiment un après, un avant et un après. Là, je pense qu'il y aura un avant et un après, même si il y a des choses très surprenantes sur lesquelles on reviendra.
Alors évidemment, c'est pas exactement un arrêté municipal qui est en train de se signer, loin de là, mais que l'on comprenne bien aussi Arnaud Grossement, parce que pour les gens, ils se disent bon, alors cette affaire va être signée, mais après on parle de ratification, c'est-à-dire que ce sont les États qui vont prendre la main ensuite derrière.
Malheureusement, en droit international, les acteurs, ce sont les États. Ça pourrait être beaucoup plus les ONG, les citoyens eux-mêmes. Aujourd'hui, ça reste les États. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a une assemblée de représentants de 195 États plus Union Européenne, la conférence des parties à la Convention de 92, qui se réunit, qui va prendre une décision, étape 1, et par cette décision, elle va ouvrir un processus de ratification sur l'accord lui-même. Il faut distinguer la décision de la conférence des parties de l'accord qui va engager les États qui vont le ratifier. Ratifier, ça veut dire quoi? Il suffit pas aujourd'hui de se mettre d'accord sur un texte. Il faut encore que les États, par rapport à leurs ordres juridiques nationaux, se l'approprient et acceptent de se l'appliquer à eux-mêmes, cet accord. Ils ont jusqu'à 2020 pour le faire. Dès 2016, il va y avoir une ouverture de la ratification. Rappelez-vous Kyoto. Kyoto avait été signé par les États-Unis, mais pas ratifié. Et du coup, Kyoto n'avait pas produit les effets espérés. Donc là, cet accord, il faut qu'il soit ratifié par le plus grand nombre de pays. Vous savez, on aurait pu avoir un accord ultra ambitieux, très joli, avec plein de choses sympas. S'il avait été ratifié que par 50 États au final, ça aurait été un échec aussi. Donc il fallait trouver cet équilibre entre l'ambition et aussi un certain pragmatisme pour que le plus grand nombre applique cette feuille de route.
Alors que dire des États-Unis, c'est 16% des émissions de gaz à effet de serre. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce qu'ils n'ont jamais évidemment signé d'accord contraignant. Celui-là ne l'est pas. Enfin, on ne peut pas dire qu'il soit véritablement contraignant.
De toute façon, le Sénat refuserait de signer un accord contraignant. Donc oui. Le but d'Obama, apparemment, c'est de tronçonner cet accord en des micro-accords qui lui serait plus facile de faire passer auprès du Sénat. Mais faut pas trop y croire. Effectivement, les États-Unis n'ont jamais signé la Convention de Kyoto. Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que ça aurait vraiment changé les choses s'ils avaient signé la Convention de Kyoto? Je suis pas sûr. La Convention de Kyoto a été un succès entre guillemets en Europe avant tout parce que le mur de Berlin s'est effondré, que les sociétés de l'est de l'Europe ont vu leur économie flancher, ce qui a réduit considérablement les émissions de CO2. Est-ce qu'un accord contraignant est vraiment nécessaire et utile? Je suis pas sûr. Que vont faire les États-Unis? Ils sont déjà engagés d'une façon ou d'une autre sur une voie un peu différente. On le voit bien dans la loi que Obama a fait passer là pendant cet été sur la réduction des émissions des centrales électriques. C'est quand même un objectif très ambitieux qui contredit d'une certaine façon, on l'avait dit à l'antenne de Nick, qui contredit d'une certaine façon le développement sur les gaz de schiste. Mais en même temps, si les républicains passent, cette loi sera abrogée. Donc j'ai pas de religion là-dessus sur les États-Unis. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que eux et les Chinois et les Indiens, de toute façon, savent très bien que leur modèle économique basé sur la consommation de pétrole est terminé et que ce que veulent les États-Unis, c'était très clairement dit par Obama lors de cet engagement de réduire 32%, etc., c'était que les énergies renouvelables devaient être un objet de leadership pour les États-Unis dans l'avenir. Donc pour eux, c'est une certitude.
Arnaud Gossement.
Je suis d'accord avec Frédéric quand il dit qu'il y aura un avant et un après. Je crois que cet accord-là, on va faire une erreur, je me répète, si on en fait une lecture strictement scientifique et juridique. Il y a des choses extrêmement positives. Une chose, par exemple, ça veut dire que la planète entière s'est mise d'accord aujourd'hui à Paris, un, sur la réalité du changement climatique, au revoir les climato-sceptiques, défaite cruelle pour eux. Deux, sur le fait qu'il ne faut surtout pas dépasser les 2 degrés, c'est déjà trop. Donc la variable du 1,5, j'entends que certains disent, oui, scientifiquement, c'est pas réaliste. Ok, mais politiquement, c'est vachement important.
C'est très important.
Ça veut dire qu'il faut contenir, c'est-à-dire qu'il faut le faire le maximum. Le 2 degrés, c'est déjà trop, ça veut dire ça.
Et donc c'est
important de l'avoir.
Et le 1,5, excuse-moi, c'est aussi la preuve que les pays insulaires ont été entendus. Que leur voix, c'est eux qui l'ont voulu. Donc leur voix a compté autant que celle des grands pays.
Ça veut dire aussi qu'on sauve la Convention climat de 1992. Voilà. Ça, c'est vachement important. Avec ce principe clé des responsabilités communes, tout le monde est responsable, mais différencié, certains plus que d'autres. Ça aussi, on a sauvé quelque part la Convention de 92, et elle va pouvoir continuer à produire des effets. Et puis, on voit beaucoup dans la décision qui précède l'accord, de référence au non-État. Tout ce qui n'est pas État, tout ce qui est entreprise, collectivité locale, lander, État fédéré, etc., tous les autres qui n'étaient pas nécessairement représentés à la COP, eh bien ceux-là, demain, il va falloir qu'ils agissent. En fait, le plus important aujourd'hui, c'est de se dire, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'organise? Qu'est-ce qu'on fait demain? Et l'accord ne brise pas cet élan, la dynamique de Paris.
Et c'est pour ça qu'on a appelé l'émission COP, COP, COP. Et après, donc on va évidemment donc y revenir. Et surtout aussi avec les villes, hein, parce qu'il y a des engagements quand même très forts qui ont été pris par des villes du monde entier. Et là, nous avons en ligne Dominique Bourg, que nous allons retrouver avec beaucoup de plaisir. Bonjour Dominique Bourg.
Bonjour Denis.
Alors, philosophe, évidemment, Dominique Bourg, le dictionnaire de la pensée écologique. Ça, c'est aux éditions du PUF, c'est votre dernier bébé. Vous avez donc assisté à une partie, vous avez été au Bourget. Mais ça nous intéresse bien d'avoir aussi votre sentiment, parce que on a toujours quand même, malgré cette crise écologique, cette difficulté, je dirais, à nous mobiliser. Alors, lorsque vous êtes dans un pays où vous avez l'eau qui vous monte aux genoux, c'est beaucoup plus facile, bah oui. Mais nous, dans un pays tempéré, si vous dites aux gens, est-ce que vous les voyez, les 400 parties par million, ils vont vous regarder, ils ne savent même pas de quoi on parle. Donc, quel est un peu votre sentiment, vous?
J'ai entendu la discussion, là je suis grosso modo d'accord, c'est-à-dire là c'est un coup de sifflet qui vient d'être donné à l'échelle internationale. On est à nouveau sur une nouvelle ligne de départ qui en fait en quelque sorte avalise ce qui se passe déjà. Hein. Je vous rappelle qu'aujourd'hui là, un peu plus de la moitié des capacités de production d'électricité installées annuellement sont déjà du renouvelable. Il y a des inquiétudes aujourd'hui dans certains milieux de la banque et de l'assurance par rapport à leurs actifs carbonés. Donc là, c'est très important sur un plan symbolique, et c'est plus que symbolique. Simplement, maintenant, on a un cadre, simplement, et il va falloir le remplir. Et c'est là que je suis un peu moins d'accord avec ce que j'entends sur les 1,5 degrés. C'est gênant pour la population de toujours avoir des objectifs dont on sait par avance qu'on ne les tiendra pas. 1,5 degré, ça veut simplement dire que dans 9 ans, vous avez 450 milliards de tonnes de CO2 qu'on a mis en plus dans l'atmosphère, c'est-à-dire grosso modo le budget qui nous reste hein, pour les 2 degrés, et ça c'est dans 9 ans. Ça voudrait dire donc que dans 9 ans, il ne faudrait plus émettre un gramme de carbone, qu'il faudrait arrêter d'utiliser des engrais, et qu'il faudrait franchement empêcher toute forme d'incendie de forêt. Donc Mais peu importe, à la limite. Je comprends aussi, c'était la revendication de la OSIS, hein, de l'Association des îles du Pacifique, notamment, essentiellement. Donc, mais c'est quand même gênant, hein, ça pour le public. Mais peu importe, on ne va pas bouder notre plaisir. Là, c'est vraiment un nouveau départ qui est donné, mais tout, en quelque sorte, reste à faire. Ça a été rappelé, il faut que ce soit ratifié par le plus grand nombre de pays. Ça, c'est la première chose. Et puis, maintenant, il va falloir remplir l'accord. Donc, la question du prix du carbone, prix différencié, autre comme un prix directeur, accise, droit d'accès, il y a différentes formules qui sont là. Il y a un immense chantier qui est ouvert devant nous, mais disons que eh bien, ce qui vient de se passer à Paris, ça donne un sens, ça donne une pertinence, et ça donne un élan à ce chantier. Mais que les gens le sachent maintenant, tout est à faire, et avec chacun de nous d'ailleurs aussi.
Alors Dominique Bourg, en fait ces dérèglements pour l'essentiel, on le sait, donc proviennent des activités humaines, mais on est toujours un peu dépassé par ce que l'on a créé. Là je m'adresse davantage aux philosophes.
Ah, c'est moins qu'on puisse dire, parce que de toute façon, on ne s'en doutait pas, les premiers textes, bah, c'est les textes où on voit qu'il peut y avoir quelque chose d'inquiétant, c'est les textes de Revel, hein, l'océanographe, et qui est à l'origine de la mesure à Mauna Loa à partir de 58 de la variation de la concentration de dioxyde de carbone dans l'air. Il y a un rapport qui est remis au président des États-Unis avec un chapitre qu'il a pris en charge et qui porte sur ce sujet. Lui parlait d'expérience à l'échelle mondiale. Ben, on a fait cette expérience, mais le on est de trop en quelque sorte, parce que les populations, même une grande partie des populations, n'ont pas encore compris qu'on était dans une expérience. Alors, là aussi, c'est un des apports de cette signature, du moins j'espère, à Paris. Eh bien là, c'est une manière de dire, ben, voilà, maintenant on reconnaît, c'est nous qui changeons le climat. Ben, puisque nous changeons le climat, nous allons devoir changer nos comportements, nos consommations. Mais c'est vrai que c'est un véritable défi, si vous voulez, pour la pensée. On a fini par produire une situation par rapport à laquelle on n'est pas équipé. Hein, vous le rappeliez tout de suite, là, effectivement, mes sens ne me disent pas qu'il y a 400 molécules de dioxyde de carbone dans l'air ambiant. Mes sens ne me disent rien sur une moyenne. Donc le climat, c'est quelque chose qui échappe aux sens. Et on ne peut comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui que par l'intermédiaire de médiations scientifiques abstrait, difficile à comprendre, d'où le côté retors et en partie efficace des climato-sceptiques, hein, qui voulaient simplement délégitimer ces recherches vis-à-vis de l'opinion. Donc on est dans une situation assez extraordinaire, on va devoir maintenant gérer une situation et on ne pourra plus la gérer sans science, sans capteur. C'est-à-dire qu'il y a des contenus de savoir abstrait qui doivent entrer dans l'opinion commune. Et ça, c'est un immense défi.
Est-ce qu'on n'est pas davantage homo faber, c'est-à-dire celui qui fait que homo sapiens,
hein ? C'est moins qu'on puisse dire. Là, on le voit bien d'ailleurs, le sapiens en question, il est complètement déconnecté et il n'implique rien du tout. Ce sont des représentations totalement abstraites, elles ne nous font pas bouger. Hein, si vous voulez, les connaissances qui nous permettent de dire que, franchement, on est dans quelque chose de dangereux, on les a à la limite depuis les années 70. Hein. Pensez d'ailleurs, il y avait un demi-chapitre dans le rapport Dubois qui avait été rendu avant la première grande conférence sur l'environnement en juin 72 à Stockholm. Vous aviez déjà un demi-chapitre qui était consacré à ça. Les fondamentaux théoriques, on les a depuis le 19e siècle. Ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Ça a été stabilisé avec Tyndall en 1860. Et puis, on commence à les construire dès le début du siècle. Donc, c'est une vieille affaire sur un plan scientifique, mais ça ne nous fait pas bouger. Ce qui nous fait bouger, effectivement, c'est comme vous le disiez, c'est quand j'ai les pieds dans l'eau, si je suis philippin et que je me prends de temps en temps un typhon sur la figure avec des rafales de vent à presque 380 km/h, ben là, je comprends ce que ça signifie, le changement climatique, beaucoup plus que d'autres. Si je suis en Europe, je ne comprends pas. Si je suis aux États-Unis, j'ai pourtant des choses assez bizarres qui m'arrivent sur la tête, mais il y a un tel matraquage climato-sceptique que je ne fais pas forcément le lien. Et ça aussi, c'est un autre piège du changement climatique. Ce sont des phénomènes normaux, dans un premier temps, qu'on intensifie. Donc c'est très facile de dire aux gens, mais non, ça a toujours existé. Les hommes n'ont rien à voir là-dedans. Donc c'est ça le défi. On a un défi cognitif, et effectivement, on est beaucoup plus faber au sens où on sent les choses qu'on ne tire des conséquences de représentations très abstraites.
Un grand merci, Dominique Bourg. Et puis, de toute façon, reste avec nous, hein, donc il n'y a pas de problème. On va vous offrir cette première chanson, Chant fort. C'est parti.
Concours de circonstances, malentendu. Malchance, malgré les apparences, n'y voit nulle malveillance. Concours de circonstances, simple coïncidence. Avec une autre, je danse, mais c'est pas ce que tu penses. C'est un concours de circonstances, et je plaide l'innocence. Mais en dépit de mon éloquence, tu doutes encore, tu n'as pas tort. Je n'ai pour seule défense que cette excuse bidon, c'est toi qui as raison. J'ai aucune circonstance atténuante, je n'avance plus le moindre argument. J'accepte ton jugement. Tes yeux me lancent des éclairs. Oui, je suis fait de chair, et la chair est faible parfois. Ne me le fais pas payer trop cher. Regret de circonstance, j'ai trahi ta confiance. Je mériterai la potence, mais fais preuve de clémence. Laisse-moi une dernière chance.
Bonne nouvelle, d'après l'Office mondial de la santé, on meurt de moins en moins de crises cardiaques et nous nous tournons vers le docteur Radio Plus.
Exact. Mais cette statistique étant établie mondialement, il faut dire que les gens meurent moins de crises cardiaques parce qu'ils meurent avant soit de faim, soit à cause de la pollution.
Est-ce que vous constatez, vous, déjà les effets de la pollution sur les patients qui viennent chez vous?
Oui.
CO2, mon amour.
Vous savez, moi je suis médecin à la radio. J'écris dans les magazines. Alors il y a combien? 15 ans que j'ai pas vu de malade.
Avec Denis Chessoux.
Ah oui, comme ça on n'est pas influencé, hein, pour les malades, on est tranquille. C'est au de mon amour sur France Inter, donc un petit décryptage comme nous le pouvons là avec ce texte qui est sorti tout à l'heure, paf, de sa boîte. C'est merveilleux, la fumée noire de vos diesels a disparu, alléluia, mes frères, mes sœurs, en ce samedi, la fumée blanche est apparue. Il est frais mon texte, il est frais ou il est effrayant, je ne sais pas, non, il est quand même assez frais. Quand même, on va revenir sur deux, trois petites choses. Alors Frédéric Danré, effectivement vous me disiez, et on l'a bien vu, alors sur les transports, terrain incognita, hein, il y a pas grand chose là-dessus.
Ben, y a rien, c'est ça mangeait pas de pain pourtant, mais il y a rien peut-être aussi parce que il y a un gros lobby de l'aérien. On sait que d'ici 2050, à cause de la croissance du trafic aérien, les émissions liées au trafic aérien devraient être prépondérante dans l'atmosphère à l'échelle de la planète, donc d'ici 2050. Et donc, il eût été intéressant que cela apparu sur le document. Non, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. C'est d'autant plus surprenant que le lobby aérien qui ne veut pas reconnaître sa responsabilité accepte quand même l'idée de compenser. En fait, c'est un gros lobby de la compensation carbone pour aller planter des petits arbres dès lors que vous prenez l'avion. Faut, juste pour fixer les idées, hein, si vous faites un aller-retour Paris-New York en classe éco, c'est une centaine d'arbres, hein, qu'il vous faut planter sur 20 ans. Il ne faut surtout pas qu'ils...
Attendez, ça faut le rappeler. Voilà. Un aller-retour Paris-New York en classe éco.
Si on veut que ce soit convenablement absorbé, il faut laisser pousser des arbres pendant 20 ans. En espérant qu'il n'y ait pas de coup de vent, qu'il n'y ait pas d'inondation, qu'il n'y ait pas d'incendie. Donc voilà, pour fixer les idées, un des plus gros lobbies, oui, anti-décarbonation de l'économie, c'est le lobby aérien. Et d'ailleurs, dans ce document, finalement, on ne parle pas beaucoup de combustibles fossiles, voire on n'en parle pas du tout. On est plutôt sur une neutralité carbone à aller chercher. Dans la partie finance, on parle d'augmenter, comme par hasard, le stock de carbone des forêts. Comme si on se préparait à mettre en place des mécanismes de compensation. Sauf qu'il n'y a aucune mention sur le marché du carbone.
Alors ce que je vous propose, c'est de faire un tour de bande de quelques milliers de kilomètres, parce que, je vous ai parlé de Luc Jacquet, on a un grand plaisir, parce qu'on réussit à vous avoir absolument en direct, avec votre association Wild Touch Expedition, et Luc Jacquet, avec la glace et le ciel. Tenez, on va d'abord écouter cet extrait de La glace et du ciel.
Les expéditions polaires françaises recherchent un jeune étudiant pour une mission scientifique de plus d'un an en Antarctique. Une excellente forme physique est exigée et de préférence un certain goût pour l'aventure.
On ne voit pas arriver l'Antarctique. On bute contre lui. J'en suis rentré avec un regard unique sur le monde et surtout cette empathie folle pour la planète sur laquelle je vis. Je me retrouve là-bas, loin du monde, où l'existence est pleine de défis et de fraternité. Pour la première fois, je me sens maître d'un royaume. En 1984, nous mettons sur pied une mission extraordinaire. Nous recueillons des fragments de temps, mètre après mètre. L'analyse des cristaux nous prouve que nous avons pénétré dans les glaces de l'ère glaciaire. Ces travaux me vaudront les honneurs internationaux et mes blessures les plus profondes.
Les prévisions catastrophiques sur le réchauffement de l'atmosphère ne sont peut-être pas ce qu'on nous a dit que c'était.
Mais vous êtes justement de ces hommes qui raisonnent sur le court terme.
À 82 ans, je suis aujourd'hui un vieil homme qui constate que l'histoire lui a donné raison. Je pense aux glaciers qui fondent ici et aux îles qui se noient là-bas. Je pense à l'homme triomphant qui devrait maintenant renoncer à s'approprier l'entièreté du monde. Non pour la Terre et ses créatures, mais pour nos enfants. Mais j'ai confiance. L'homme n'est jamais aussi sublimement lui-même que devant l'adversité.
Claude Lorius, donc le héros de ce film La glace et le ciel, que nous avons beaucoup parlé sur France Inter. On s'est régalé, nous on l'a vu il n'y a pas si longtemps avec Frédéric Denré. Vraiment, c'était extraordinaire.
C'est un film magnifique sur ce...
Ode à la science d'abord.
Sur un ode à la science. C'est un film magnifique sur ce que c'est que la pensée scientifique. Voilà, il faut 40 ans de boulot pour tout d'un coup trouver quelque chose. Et pendant que Lorius faisait ses 40 ans de boulot dans des conditions déplorables en Antarctique, Claude Alleg, lui, bien dans son fauteuil, se permettait de critiquer ce qu'il avait fait. Voilà, là, c'est juste la beauté de la science, ce film. C'est une merveille.
Alors, l'Antarctique, 14 millions de kilomètres carrés. Je clique, hop, la Terre Adélie, 432 000 kilomètres carrés. Et je clique encore et j'arrive sur Luc Jacquet. Bonjour, Luc Jacquet.
Comment ça va bien?
Écoutez, c'est pas mal, vous avez quitté votre Jura, là, tranquillement, pour aller du côté de l'Antarctique. Et en fait, vous aviez envie de témoigner, avec d'ailleurs Vincent Munier, qui est un formidable photographe originaire des Vosges, avec Laurent Badesta, qui est aussi un très grand plongeur. Vous aviez envie de témoigner de l'évolution de ces paysages que vous avez connus il y a 10 ans, au moment de la marche de l'Empereur.
Oui, c'est assez fascinant de penser que aussi loin du monde civilisé, le destin de tous ces animaux qu'on côtoie depuis quelques semaines maintenant, dépendent littéralement des décisions qui vont être prises ou qui viennent d'être prises. Alors moi j'ai des infos un peu en retard à Paris. C'est vrai que quand vous êtes à la limite du vivant, comme on l'est aujourd'hui en Antarctique, où vous avez des animaux qui se battent tous les jours dans des conditions de vie absolument extrêmes, on se dit que la vie a un prix incroyable. Et c'est vrai qu'on avait envie de témoigner de ça avec notre langage, qui est finalement le langage de l'émotion et des photos.
Alors sous les yeux aujourd'hui, donc qu'est-ce que vous avez? Quelle est la température? Comment ça se passe sur cette base du Mont d'Urville?
Je regarde ma montre, il est plus de 11h30 du soir. Mmh. On a un temps couvert ce soir, beaucoup de vent, il fait très froid, on a eu très froid aujourd'hui. Donc la température soit très fraîche, on est sur des températures qui sont quasiment positives ces jours. Mais on a un vent qui est très violent, on avait presque 100 km/h de vent aujourd'hui, on a vraiment eu très 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 froid au bord de l'eau. Là.
Alors que disent les scientifiques en ce qui concerne donc ce réchauffement? On sait qu'il y a des pans entiers d'Antarctique, donc ces fameux shells qui vont être coupés, puis après qui vont dériver. Mais où en est-on? Est-ce que c'est perceptible cela?
C'est perceptible oui et non, c'est-à-dire qu'il y a des choses effectivement en Terre Adélie. Moi j'ai été frappé de voir que effectivement le paysage a radicalement changé ici, comme j'ai déjà dit à plusieurs reprises, le régime des courants autour de l'Antarctique, en particulier de la Terre Adélie, a été modifié en raison de du vélage, comme on dit, de l'émission d'immenses icebergs comme ça qui forment des digues et qui changent vraiment la circulation de la glace. Donc oui, en Terre Adélie, visuellement, il s'est passé des choses. Et qu'est-ce qui s'est passé? bah, c'est effectivement des accumulations de glace dans des endroits où il n'y en avait pas, où c'était de la glace saisonnière. Donc il se passe quelque chose, mais les scientifiques qui voient plus loin, hein, qui ont ce pouvoir de prospective, nous disent qu'effectivement, il y a des choses qui sont en train de se passer au niveau de la fonte, au niveau de l'écoulement des glaciers, qui peuvent être assez angoissantes au fond. Voilà, mais après à l'échelle du regard, effectivement, ce qu'on constate, bah, c'est que les animaux se battent encore une fois pour exister, quelles que soient finalement les conditions, sans bien sûr au fond avoir conscience que tout ça est dû à une espèce parmi tant d'autres qui est la nôtre et qui est en train littéralement de modifier leur mode de vie, qui est tellement millimétré. Ici, on n'existe que parce qu'on a la capacité d'être très précis dans sa manière de survivre, et la moindre modification peut entraîner des modifications catastrophiques.
Et vos chers manchots empereurs, comment vont-ils ?
Ben, ils vont bien cette année. Fort heureusement, ils vont bien. Après 3 années calamiteuses ici, avec des températures positives, avec un régime de glace très perturbé qui avait entraîné des taux de mortalité calamiteux, cette année on a la chance d'avoir une colonie en pleine forme, avec quasiment plus de 2000 poussins qui partent à l'eau sous nos yeux tous les jours actuellement. Donc on a eu au fond beaucoup de chance. Et peut-être c'est ce qui nous stimule ou qui nous donne envie encore davantage de témoigner et de donner envie de protéger cette espèce qui est absolument sublime. Je vous assure que on a encore passé la journée au bord de la banquise et voir ces petites créatures comme ça, toutes duveteuses, toutes grises, qui d'un seul coup basculent comme ça vers un destin aquatique alors qu'ils n'ont connu que l'hiver antarctique. Au fond, je vous assure que c'est extrêmement émouvant.
Écoutez, un grand merci Luc Jacquet pour ce témoignage en direct depuis l'Antarctique. Moi, je vous renvoie d'ailleurs aussi à cet ouvrage pour les enfants. Vous pouvez vraiment y aller. La glace et le ciel de Claude Lorius et de Luc Jacquet aux éditions donc Actes Sud Junior. Quand je dis les enfants, c'est nous aussi. Hein. Voilà. On vous souhaite le meilleur, cher Luc. Et puis, vous saluez aussi donc Laurent Balesta et Vincent Munier qui font des ouvrages absolument remarquables. Vincent Munier est un homme qui sait, j'allais presque dire peindre. En fait, il est photographe, mais il sait saisir le blanc comme personne. Voilà. Merci à vous, Luc Jacquet. Oui.
Merci Denis.
Eh ben, je vous en prie. Et puis, nous,
vous pouvez suivre nos aventures en direct sur le site de White Touch avec Vincent et Laurent qui envoient des photos régulièrement. Comme ça, vous pouvez vivre l'aventure quasiment avec nous.
Donc,
je vous invite à rejoindre le site de White Touch et vous saurez tout sur l'expédition.
Je pense qu'on l'a mis sur le site de CO2, donc ne vous gênez pas. Mais si on l'a pas mis, dès que nous sortons du studio, ce sera mis sans aucune difficulté. Merci à vous, cher.
Merci beaucoup, Denis. Bonne journée.
Salut. À très bientôt. Prix du carbone, dites donc là, parce que dans notre grande série, donnons un prix à ce qui fait mal. Alors évidemment, lorsque vous avez des pays qui sont déjà pauvres, vous rajoutez un prix du carbone, c'est un peu compliqué. Mais quand même, où en est-on de prix du carbone dans cet accord, Arnaud Gosmand ?
Alors, juste avant, il faut bien voir que cet accord, il est issu d'un renversement complet de paradigme. Grosso modo, à Copenhague, on a essayé de trouver un accord qui imposait des choses aux États. Nous n'y sommes pas arrivés. Les États sont souverains et n'ont pas accepté d'abandonner cette souveraineté à un organe international ou à un accord international. Et à partir, grosso modo, de Durban, 2011, on s'est dit, on va complètement inverser la logique, on va faire autre chose. On va dire que on va pas partir du haut vers le bas, mais du bas vers le haut. C'est-à-dire qu'on va demander aux États d'émettre ce qu'on appelle des INDC, des contributions volontaires nationales, des engagements nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est le cœur de l'accord. L'accord, à la limite, on pourrait même le résumer à ce mécanisme des contributions volontaires nationales, c'est le plus important. Et quelque part, on va se faire confiance dans un cadre de transparence. C'est-à-dire que plutôt que d'essayer d'avoir un juge, des sanctions, des choses comme ça, on va plutôt se dire, voilà, chaque État va s'engager et il va mettre ça sur la place publique. Et puis, à partir du moment où l'accord de Paris va produire des effets, tous les 5 ans, on va faire le point où est-ce qu'on en est en général. Alors, parmi ces points, la tarification carbone, c'est vrai qu'on la trouve pas, mais c'est pas du tout consensuel, y compris parmi les écologistes. Aujourd'hui, il n'y a pas d'accord, ni parmi les économistes, les juristes, les écologistes, sur est-ce que c'est une bonne chose ou pas de donner un prix au carbone. On sait que Jean Tirole, par exemple, prix Nobel d'économie, a beaucoup milité pour ça, mais on voit bien que même en France, déjà, le débat a lieu. On ne le retrouve pas dans le texte. Par contre, moi, il y a une chose dont je me félicite, c'est que des expressions floues et susceptibles de mille interprétations comme neutralité carbone ou neutralité des émissions de gaz à effet de serre, comme Frédéric l'a dit,
non, mais ça
permet les pires dérives.
Alors d'accord, alors qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça,
Neutralité carbone, ça veut dire, il faut, même si on ne réduit pas nos émissions de gaz à effet de serre, même si on ne réduit pas les émissions de carbone, À la limite, c'est pas trop grave parce qu'on a d'autres systèmes, on a la science, on peut compenser d'abord. Hein, vous prenez l'avion et puis c'est pas très grave si vous avez mis parce que vous ferez un petit chèque pour faire ce qu'on espère être une forêt. À supposer qu'on puisse créer une forêt dans un pays en voie de développement. La séquestration, c'est une technologie qui existe aujourd'hui, qui est assez peu développée, qui est très chère, qui mettrait beaucoup de temps à se développer pour en réalité enfouir des émissions, mais qui ont quand même déjà été émises. Ça, aujourd'hui, dans l'accord, il y avait un risque, effectivement.
Je ne vais pas dire que ce sont des indulgences modernes, mais il y a un peu de ça quand même.
C'est des indulgences modernes, on peut le dire ça. Et au minimum, ces expressions très floues, on ne les a pas dans l'accord, alors que dans les versions précédentes, les jours derniers, on les avait encore.
Oui, effectivement, on parle plus de neutralité carbone, mais on reste sur un flou, on parle de réduction d'émissions. Il n'y a pas d'objectif, les objectifs seront dans les...
On dit que le pic doit être atteint aussi tôt que possible. C'est vrai que ça reste un peu...
C'est bien.
C'est très flou, donc ça dépendra des comptes. Les objectifs de réduction seront inscrits dans les contributions nationales, revues régulièrement.
D'accord.
Mais oui, ça reste flou. Et...
As soon as possible,
mais voilà. C'est vrai, le marché du carbone, alors qu'on est sur un modèle capitalistique, un modèle de marché, je sais pas, il n'y a pas de référence, c'est un peu étrange, j'ai du mal à comprendre.
Voilà, écoutez, nous avions Luc Jacquet, du côté de l'océan austral, donc qui est quand même un gros absorbeur de gaz à effet de serre, parce que c'est le plus froid.
C'est le plus froid, c'est lui qui absorbe tout, c'est des espèces de boudins d'eau très froide qui nous protège, qui nous isole de l'Antarctique, et effectivement, c'est lui qui absorbe à peu près la moitié du carbone qu'absorbent les océans.
Et ça, Isabelle Autissier, présidente du VVF, le sait très très bien. Bonjour chère Isabelle.
Bonjour Denis.
Voilà, vous êtes avec nous, après Luc Jacquet, après Dominique Bourg qui doit nous écouter aussi. On va peut-être reprendre d'ailleurs aussi Dominique Bourg. Et alors bon, là vous n'êtes pas du côté de l'océan Austral, vous n'êtes pas du côté d'Ushuaïa que vous aimez beaucoup, vous n'êtes pas très loin de votre mer, et donc quand même le rôle des océans, parce qu'on ne l'a quand même pas vu beaucoup passer, le rôle des océans dans cet accord.
Ben c'est vrai, d'ailleurs, l'océan s'est rebiffé, enfin les amateurs d'océan se sont rebiffés, et la plateforme Climat Océan a beaucoup bataillé pour qu'on en parle au moment de la COP. Alors ça s'est traduit quand même par beaucoup de conférences, y compris dans la zone bleue, donc la zone réservée aux négociateurs. On a beaucoup parlé de l'océan, on a beaucoup parlé de son effet de puits de carbone, on en a beaucoup parlé de l'acidification. Maintenant, le petit problème, c'est que comme l'océan n'est pas un pays et que l'océan n'appartient pas, à part les zones évidemment côtières, n'appartient à personne, ben personne ne prend des engagements au nom de l'océan. Donc je crois, j'ai pas le texte sous les yeux, mais je crois qu'il y a simplement une toute petite référence dans le préambule, c'est-à-dire pas grand-chose. Et en fait, c'est évidemment passer à côté à la fois du fait que l'océan souffre énormément de l'effet de serre, hein, puisque l'acidification va avoir un effet considérable sur
toute la vie et la construction des organismes. Hein,
mais que d'un autre côté, l'océan, c'est quand même un de nos meilleurs atouts pour lutter contre l'effet de serre. Donc, c'est un peu dommage. Et en même temps, je pense que le problème des négociateurs, c'est qu'ils ne savaient pas bien où mettre ça, quoi. Le seul cadeau qu'on puisse faire à l'océan, c'est de limiter nos gaz à effet de serre, effectivement. Ça, c'est... Et si on le fait, bah, il sera bon compagnon et il nous aidera à limiter le CO2 atmosphérique. Donc tout ça se tient un peu par la barbichette.
C'est vrai qu'on a encore énormément d'inconnus sur cet océan, mais en tout cas c'est un formidable capteur. 26%, on dit aujourd'hui, des gaz à effet de serre sont donc captés par nos océans. On va rajouter à peu près autant sur la biomasse. Alors dans la biomasse, vous avez les forêts, vous avez aussi les pâturages, on va pouvoir en parler tout à l'heure avec Frédéric Noé, mais il y a quand même un certain surplus. Bah, écoutez, un grand merci chère Isabelle, et je reviens vers Dominique Bourg qui souhaitait intervenir sur le prix du carbone, Dominique.
Oui, parce que c'est quand même un aspect extrêmement décisif. C'est quand même un peu tout là autour que ça va se jouer. Alors, la chose qui est entendue maintenant, c'est qu'effectivement, un prix unique de la tonne de carbone, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Je donne un simple exemple. Imaginez, c'est à peu près ce qu'on pense dans un premier temps, donner le prix de 50 € à la tonne de carbone, ça doublerait le prix du ciment en Inde, et le bâtiment, c'est 20% du PIB indien. Donc jamais ils n'accepteront ça. Mais il y a bien d'autres solutions. Alors il y a l'idée d'un prix différencié. Effectivement, suivant les économies, le prix n'est pas le même. Il y a l'idée très intéressante qui a été défendue par la Fondation 2019, d'une axie, c'est-à-dire d'un droit où on paierait, si vous voulez, à l'équivalent du baril, $10, ce qui franchement n'est pas grand-chose. Hein. On est redescendu à 40, après oui. 50, c'est un prix qui de toute façon resterait très très bas, même s'il va probablement remonter à l'avenir. Et ça, si vous le faites sur tous les fossiles, ça vous donne pas 100 milliards, mais ça vous donne 1000 milliards qui pourraient ensuite être redistribués sur les énergies non carbonées, décarbonées, évidemment pas de nucléaire, les énergies décarbonées et renouvelables. Et vous avez aussi une autre proposition, là, défendue par quelqu'un comme Jean-Charles Orcade, ben, c'est inverser le système. Cette fois-ci, vous ne payez pas une taxe à l'autonomie émise, mais vous recevez une contribution à la tonne non émise, sous l'espèce de certificat garanti par les banques centrales, à la même hauteur, par exemple $50 à la tonne non émise, 50 euros la tonne non émise, et là ça ferait tout simplement une monnaie complémentaire internationale qui serait physiquement assise. Il y aura peut-être d'autres propositions, mais ça c'est vraiment le nerf de la guerre. D'ailleurs, constatez-le, maintenant les bourses ne sont pas effondrées, mais s'il fallait prendre au sérieux les 1,5 degrés, elles devraient s'effondrer dans le week-end. Donc il y a tout un tas de batailles qu'il va falloir mener maintenant. Alors à la fois c'est des batailles en termes de rapport de force, mais c'est aussi des batailles en termes d'inventivité, en termes d'intelligence, c'est des batailles en termes de communication. Je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, au moins dans les pays du Nord, les gens n'ont pas une idée du changement climatique, c'est quelque chose de très lointain. Il faut arriver à rendre la chose plus proche, à faire comprendre que c'est un enjeu fondamental et que les dégâts c'est maintenant, c'est pas demain, ils sont déjà lourds maintenant. Voilà, c'est tous ces combats qui vont devoir être menés. Donc encore une fois, Paris, c'est un cadre très intéressant, mais on a maintenant les années, les décennies qui sont devant nous pour le remplir.
Merci Dominique Bourg. Vous parlez justement de conséquences et donc de dégâts. Moi, je vous propose de partir au Sénégal. J'ai rencontré entre autres Gorgui Yendong, qui est le maire de Pikine. Pikine se trouve dans la banlieue de Dakar. Alors déjà, vous avez plus de 3 millions d'habitants sur une population de 15 millions d'habitants au Sénégal. Pikine, c'est 90 000 habitants. De plus en plus de monde viennent des campagnes pour aller dans les grandes villes en pensant avoir un sort meilleur, ce qui n'est pas exactement le cas. Et donc, il nous parle, Gorgui Yendong, que j'ai rencontré il y a 2 jours à Nanterre, nous parle de la réalité de ce réchauffement climatique.
Le réchauffement climatique se traduit au Sénégal, dans la grande région de Dakar, par la dégradation des sols par rapport à l'exploitation de la grande Niaye, cette bande verte qui permettait au Sénégal de l'alimentation en horticulture.
C'est une grande bande maraîchère, en fait.
C'est une très grande bande maraîchère qui permettait aux populations presque l'autosuffisance en termes de légumes, mais aussi une dégradation avec l'avancée de la mer.
On a cette bande et donc qui est en train de se saliniser.
Exactement. Cette avancée de la mer cause aujourd'hui, en termes de conséquences, la salinisation des terres qui détruit complètement la terre par rapport à l'exploitation de cette bande maraîchère. Il y a aussi l'avancée du désert qui avance du Sahara vers le Sénégal.
Ndia Gafal, qu'est-ce que vous constatez donc vous aussi dans ces pays, et peut-être qu'on a un peu nous des idées reçues par rapport à ce changement climatique. Comment ça se passe donc chez vous ?
Nous, on n'est pas tout à fait responsable, hein, des dérèglements climatiques, parce qu'on ne produit presque pas des gaz à effet de serre. C'est au niveau des pays industrialisés où cette production est assez importante. Mais malheureusement, il nous faut réagir parce que nous, on commence à avoir les effets. La première conséquence, c'est sur le plan de la pluviométrie. Soit on va assister à des extrêmes, soit qu'il n'y a pas de pluie du tout, soit qu'il y ait un excédent. Et quelle que soit la situation, ça va se répercuter donc sur le cadre de vie. L'autre chose, c'est l'érosion côtière. En 2015, cette année-ci, lors de la saison des pluies, il y a eu des conséquences désastreuses au niveau de la commune de Mba ou de Thiaré-sur-Mer, parce que c'est des communes qui ont une façade littorale. Donc là, vraiment, nous, au niveau de Pékin, les changements climatiques, ce n'est pas de la théorie. On est en train de les ressentir. Mais à ce niveau-là, il nous faut un transfert de technologie qui viendrait des pays développés, mais aussi des moyens financiers suffisants si ils veulent nous pousser à adopter quand même les énergies propres. Parce que nous n'avons pas ces moyens-là.
Vous avez des centrales au pétrole, quoi. Donc,
oui, c'est ça, au fuel. Parce que même avec ces centrales au pétrole-là, on ne parvient pas à desservir tout le pays, à plus forte raison que lorsqu'on doit procéder aux énergies renouvelables, qui coûtent cher et qui est une technologie nouvelle.
Avec ce réchauffement climatique, c'est en fait le cycle de l'eau qui a été perturbé.
Au niveau de Pékin, par exemple, en 2005, il y a 360 000 sinistrés recensés, sinistrés du fait des inondations. C'est vrai que pour le moment, la question des changements climatiques, c'est presque une question d'élite. C'est les États qui en parlent. Mais au niveau local, il faut se dire franchement que ce n'est pas encore une préoccupation. On est un pays très pauvre. On utilise le charbon pour faire la cuisine, on utilise le charbon pour se chauffer, on utilise le charbon pour énormément de choses. Et ça produit aussi donc du gaz carbonique. Et ça, c'est un gaz à effet de serre, etc. Donc moi, je pense que c'est sur ce registre-là qu'on pourrait conscientiser un peu les populations. Ça va être très difficile parce que pour eux, ce n'est pas une question sérieuse. Pour eux, les changements climatiques, c'est une question de rien du tout.
Monsieur de Fenfal, vous êtes maire de quelle commune ?
Diamagan-Sikamba.
Vous êtes à quel endroit ? Par rapport à, je sais pas, à Dakar ?
Je suis en banlieue dakaroise.
Alors, comment vous le vivez, vous ? Effectivement, vous êtes maire. Vous avez donc plein de problèmes, évidemment, de développement, on le sait. Comment vous vivez, vous, ce réchauffement climatique et qu'est-ce que vous attendez ?
Nous, notre commune est plus fortement impactée par les inondations. Parce que nous, fondamentalement, on a une commune de 80 quartiers. Mais aujourd'hui, tenez-vous bien, plus de 50 quartiers sont dans les eaux. Les populations payent en lourd tribut.
Et alors, le problème qu'il y a, et ce n'est pas lié simplement au Sénégal, c'est que vous avez de plus en plus de monde qui va quitter les campagnes pour aller vers les villes. Donc il faut qu'ils s'installent quelque part, et parfois sur des zones inondables, bien sûr.
On a un exode rural massif qui s'est traduit par des dérèglements, effectivement, à tout bout de champ. Ces populations-là s'installent dans des zones qu'on dit des zones non édificantes, c'est-à-dire des zones qui ne sont pas indiquées pour logement ou bien l'aménagement, ce qui se traduit effectivement par des désagréments majeurs.
Ce qu'il nous faut aujourd'hui et ce qu'on attend de cette COP21, c'est un accord contraignant, un accord sincère, un accord juste et équitable pour l'ensemble des pays permettant aujourd'hui de financer le développement d'abord de l'Afrique, des pays qui polluent moins, assurer d'abord leur développement et leur assurer aujourd'hui de faire la transition entre le fioul lourd vers les énergies renouvelables. Oui. Mais en même temps aussi, demander aux leaders de l'Afrique, puisque ce n'est pas de la faute, seulement n'est pas des pays industrialisés, et demander à l'Afrique, aux dirigeants, d'arrêter les guerres civiles et de se penser et d'aller directement vers la résolution des véritables problèmes des populations qui consistent le développement de l'Afrique.
Vous avez une très belle image, Gorgui Ndong, aussi, sur parfois certains transferts technologiques qu'on voudrait presque vous imposer.
Là où nous sommes actuellement, présentement, si je peux décrire ça pour l'Afrique, c'est que je peux donner un exemple. Aujourd'hui, j'ai très chaud, très excessivement chaud. Je cherche aujourd'hui un éventail pour me permettre d'avoir un tout petit peu
de l'air. Avec l'éventail.
Ouais. Avec l'éventail, alors qu'en Europe, on utilise la climatisation. Un jour, c'est les pays occidentaux qui me demandent aujourd'hui que pour lutter contre la chaleur, l'éventail n'est plus la bonne, ce n'est pas bon.
C'est ça.
Et maintenant, il faut aller directement vers la climatisation. Donc, il y a une étape qui a été sautée, c'est la ventilation.
Ouais.
Donc, voilà comment je peux décrire aujourd'hui les différents langages, les différents comportements entre les pays en voie de développement et les pays très industrialisé, très développé.
Voilà, dans cette émission, donc, ça ne nous fait pas peur. L'Antarctique d'un côté, Isabelle Autissier. Ah d'ailleurs, Isabelle, vous la retrouverez dans l'excellente émission donc, de Fabienne Chauvière. Tous les dimanches, Les Aventuriers, à 15h55. Vous en avez peut-être l'habitude depuis le mois de septembre. Je vais juste relancer, vous dire que si vous voulez des initiatives, des choses positives, vous avez le film de Cyril Dion, donc demain. Et puis, alors moi, j'ai vu une jeune femme qui s'appelle Charlotte Normand, dans un très bon spectacle qui s'appelle Mise au vert. Alors là, c'est absolument pour tout le monde. Elle est certifiée AB, ça veut dire actrice biologique. Ouais. Alors elle a un côté blanche-neige, mais en fait, si vous voulez, elle vous parle des effets de serre, de l'OGM, de la surconsommation. Tout y passe, toutes nos pratiques avec des personnages décalés. C'est lundi 14 décembre au théâtre des Déchargeurs à Paris. On a mis donc le site sur le site de CO2 Mon Amour. Donc c'est très bien. Charlotte Normand, Mise au vert. Parlons de l'après, Arnaud Gossemann. Voilà. On y est maintenant, donc l'après.
La presse est d'abord 15h45 aujourd'hui, hein, puisque la conférence des parties... on parle d'un projet d'accord. Donc oui. La conférence des parties doit encore prendre la décision d'ouvrir à ratification l'accord de Paris. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est une période qui va s'ouvrir jusqu'en 2020. On espère que d'ici à 2020, il y aura un premier inventaire, hein, si possible en 2018, de ce qui a déjà été fait en termes d'engagements nationaux de réduction des gaz à effet de serre. On espère aussi qu'une coalition d'États qui voudrait aller plus vite que les autres pourrait se mettre en marche et prendre des décisions qui vont un peu plus loin que cet accord de Paris sans attendre. Ensuite, processus de ratification. Espérons aussi le plus grand nombre d'États. C'est pas le tout d'avoir un accord ambitieux. Il faut surtout un accord qui soit ratifié par le plus grand nombre et qui rentre en vigueur en 2020 avec une première réunion le plus vite possible de la nouvelle conférence des parties à l'accord de Paris. Et puis, il se passe pas que ça. Il se passe aussi des choses dans les États. Alors, la première chose, c'est d'avoir une vraie réflexion sur le droit international. Je veux pas être trop juridique, mais on voit bien qu'on a des instruments qui sont un peu issus de l'après-guerre, hein. Le processus onusien est quand même très critiqué depuis plusieurs années. Je pense qu'il faut moderniser ce droit international, cette manière d'engager les négociations diplomatiques et notamment de mieux associer les parlements, les citoyens, la société civile qui aujourd'hui s'exprime beaucoup et qui reste observatrice par rapport à ces négociations. Donc ça, là, on a un formidable champ de réflexion très concret sur... On voit bien qu'on est en train de devenir une communauté mondiale. On ne peut pas raisonner uniquement à l'échelle de chaque État. On ne peut pas uniquement raisonner à l'échelle de l'Union européenne. Il faut qu'on raisonne maintenant à l'échelle du monde et certainement pas qu'en matière d'écologie. Comment on va faire demain pour trouver les instruments d'élaboration, d'engagement qui engagent vraiment le monde entier? C'est un défi extraordinaire dont on parlera peut-être plus dans les jours prochains, oui. Une fois que l'émotion sur l'accord de Paris sera retombée. Mais j'espère qu'elle ne retombera pas d'abord. Mais c'est vrai que c'est un chantier absolument fabuleux. Comment on modernise ces instruments qui nous datent grosso modo du lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est un très très beau chantier.
Alors Frédéric, on entre quand même dans une société, donc à la fois on a besoin évidemment de davantage de science dans tout ce domaine, mais aussi une société de réparation. Il va falloir quand même qu'on répare un petit peu tout ce qui risque d'arriver. Et puis ça veut dire aussi aménager le territoire. Faites-nous le lien, parce que c'est vraiment la clé fondamentale, ça.
Et oui, c'est là où on voit que l'écologie est avant tout une science politique, une science sociale. Le changement climatique, c'est une altération du cycle de l'eau. Donc ça oblige à regarder encore plus finement le trajet de la goutte d'eau entre le ciel et la rivière. Et entre le ciel et la rivière, il y a ce qu'on fait des sols. Il y a l'usage des sols. Et l'usage des sols, c'est à la fois les itinéraires agricoles et à la fois l'aménagement du territoire. Et les deux se rejoignent avec comment on utilise le foncier, quel régime on lui donne, quel prix on lui donne, est-ce qu'on le contrôle, est-ce qu'on le contrôle pas, et in fine, quelle valeur on donne à la propriété. Et dans tous les pays, c'est la même réflexion. C'est on n'y arrivera pas si... l'aménagement du territoire, c'est quoi? C'est un aménagement du territoire mieux pensé, c'est un aménagement du territoire qui permet aux gens de moins prendre leur voiture. Or, on sait que les transports, c'est 25% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de la France. Des itinéraires agricoles qui privilégient les sols, transforment les sols, de fait, entretiennent les sols en tant que puits de carbone. Donc on voit que c'est une question très politique, et derrière cette question très politique, c'est donc à la fois l'usage des sols, comment on le fait, qui en décide, qui le dit cet usage des sols. À l'heure actuelle, aujourd'hui, le permis de construire, c'est dans les mains du maire. On sait très bien que les maires, qui sont globalement à la tête de communes pauvres et qui ont affaire à des réglementations très complexes avec lesquelles ils ont du mal à prendre des décisions, on sait très bien que cette proximité avec la personne qui demande le permis de construire fait qu'on a des situations comme à la Faute-sur-Mer où on a des catastrophes. On sait très bien que le maire n'est plus l'entité qui devrait être responsable de l'allocation de l'usage des sols. Et le maire, c'est le pilier de notre système politique, de notre inconscient collectif.
Mais alors, en allant plus loin encore, Frédéric, ça veut dire que des forêts qui seront bien gérées, des pâturages qui seront bien gérés, il y en a quand même, tout ça va avoir une valeur folle demain.
Et oui, et si ça aura une valeur d'autant plus importante que l'on prendra les décisions pour moins émettre ou compenser de façon tardive, dans l'urgence. Il risque d'y avoir, par exemple, l'Arabie Saoudite qui émet ses plus gros émetteurs par tête de PIB, c'est 40 tonnes par tête d'habitants, oui. Un moment ou un autre. Pourquoi ils font de l'accaparement des terres? Un, parce qu'ils n'ont pas de terres chez eux, mais de plus en plus, ils iront chercher des terres ailleurs pour compenser leurs émissions de carbone. Et si on y prend garde, si on ne réforme pas les SAFER, qui gèrent la vente de foncier agricole en France, si on ne fixe pas des prix à ne pas dépasser. S'il n'y a pas un contrôle de la terre agricole en Europe, la terre agricole en Ukraine, en Roumanie, en France, notamment en Picardie, qui sont les terres les plus riches, et en Ile-de-France, deviendra un produit financier, ce qu'elle est déjà, la terre, mais ça deviendra un produit spéculatif. Donc on a tout intérêt à prendre les devants et à fixer des prix du carbone selon les différents marchés, puis surtout à contrôler les prix du foncier, parce que sinon, demain, oui, des Saoudiens pourraient très très bien acheter les plaines de la Beauce pour absorber leurs propres émissions.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que dès qu'il y a de la rareté, il y a un marché. Quoi,
bah évidemment, c'est le plus simple. C'est le capitalisme.
C'est le principe de base. Mais écoutez, un grand merci donc à vous deux. Merci beaucoup, cher Arnaud Gossement, avocat Denis. Environnementaliste, cher Frédéric Noé. Cessons de ruiner notre sol.
Chez Flammarion.
Il est très bien. C'est un excellent bouquin. Vous tirez le fil de l'affaire. Vous comprenez tout sur nos sociétés merveilleusement démentes. Voilà. Je vous salue tous. On se retrouve la semaine prochaine. Ah bah dites donc, on ira à Chamonix, on verra ce qui reste des glaciers, etc. Petit reportage du côté de Chamonix la semaine prochaine. Merci à Alain Gadan, à David Castelin qui était avec nous à la technique, à Claire Destacan, à Xavier Pestugia qui a réalisé donc l'émission. Et on se retrouve donc la semaine prochaine. Et puis donc, alors on n'a pas de la tuile du Mont Petit Loup parce que là c'est les régionales. Le site, vous en avez d'habitude, hein, CO2 Mon Amour, le podcast, etc. Donc allez-y, lâchez-vous. C'est fait pour dans quelques instants. Emmanuel Kerrad et sa librairie francophone.